Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. C'est le 231e numéro de Mélomanie et son sommaire va être un peu particulier aujourd'hui. Comme je vous le disais la semaine dernière, plusieurs saisons musicales sont désormais terminées, à l'exception tout de même de celle de l'Orchestre National du Capitole, de celle des grands interprètes et de celle de l'Opéra National du Capitole. Bientôt, les premiers festivals vont avoir lieu, ouvrant une nouvelle phase qui va se prolonger tout l'été. Mais le mois de mai est aussi le moment où les programmations des prochaines saisons sont dévoilées. Il y en a une qui l'a même été dès le mois d'avril, c'est celle de l'Opéra National du Capitole, justement. Nous allons lui consacrer toute cette émission et croyez-moi, la petite heure qu'elle dure ne sera pas de trop pour faire le tour de la saison 23-24. Afin de nous la présenter, j'ai invité bien sûr celui qui l'a conçue, Christophe Gristy, le directeur artistique de l'Opéra National du Capitole que je salue et que je remercie d'avoir accepté mon invitation. Tout comme je salue notre spécialiste de l'art lyrique à Mélomanie, Robert Pénavert, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journaux La Voix du Midi et Côté Toulouse. C'est parti pour notre rubrique Agenda.
Mélomanie, l'agenda.
Bienvenue aussi à tous les deux. Je sais que la saison en cours n'est pas encore tout à fait terminée, mais avant que l'on parle de la prochaine, je voudrais profiter de votre présence, Christophe Gristy, pour faire un premier bilan de l'exercice 22-23. D'autant plus que sur la lancée de la saison précédente, il y a eu confirmation du retour du public à l'Opéra National du Capitole, avec des représentations qui affichaient très souvent complet.
Je peux même dire que jusqu'à présent, elles ont tout affiché complet pour l'opéra et pour le ballet depuis le début de la saison. Donc ça, c'est une grande satisfaction. Et je ne saurais jamais assez remercier notre public d'être aussi fidèle et enthousiaste.
Ce d'autant plus que c'est, il me semble, une exception un petit peu actuellement sur le territoire français. Il y a beaucoup de maisons qui n'affichent pas du tout les mêmes affluences.
Oui, absolument. Voilà, écoutez, je ne veux pas m'en faire...
Sans faire de triomphalisme.
Comme toujours, c'est le résultat d'un travail.
Un travail, je pense, d'une bonne connaissance aussi de ce qu'aime le public toulousain. Donc on rappellera les succès de Tristan Isolde, de La Bohème, de La Traviata, mais également de propositions plus inattendues, plus insolites et plus rares, comme les Cantiques de Britten récemment à l'Auditorium Saint-Pierre-des-Cuisines. C'était pas écrit que ça allait remplir le Saint-Pierre-des-Cuisines.
Ah oui, non, ça c'était une grande joie, je dois dire. Et puis je crois que le concert a été à la hauteur de la réponse du public. Ce sont des œuvres très intimes, très secrètes et en même temps très spectaculaires, très théâtrales. Et je crois que c'était une soirée vraiment d'exception qui annonçait le viol de Lucrèce que nous allons donner dans quelques jours.
Et oui, parce qu'à propos de Britten, et pour prolonger ce qu'on vient de dire, Britten est donc très présent cette année dans la programmation de la saison en cours. Et le prochain opéra, l'Opéra National du Capitole, c'est le viol de Lucrèce, du même Britten, à découvrir du 23 au 30 mai lors de 4 représentations. Et je dis bien à découvrir parce qu'il s'agit d'une entrée au répertoire, comme le fut d'ailleurs Ruzalka en début de saison.
Oui, absolument. Alors, Viol de Lucrèce, je l'ai programmé parce que c'est une œuvre que j'aime beaucoup. Et puis là, voyant les répétitions, non seulement maintenant je me dis que c'est une œuvre que j'aime beaucoup, et même plus que ça, c'est une œuvre importante dans l'histoire de l'opéra, parce qu'elle dit des choses que finalement peu d'autres œuvres disent. Et on pense toujours que les opéras de chambre, je rappelle qu'il y a 12 instruments, 13 avec le piano du chef d'orchestre et 8 chanteurs, pas de chœur. On pense toujours finalement que ce sont des œuvres mineures, si vous voulez, ou marginales. Et quand on voit le viol de Lucrèce, avec ce sujet terrible de ce qui est dans le titre, je crois d'ailleurs que le titre peut rebuter certains spectateurs, mais il n'y a rien de trash dans la mise en scène. Évidemment, donc l'opéra évoque un sujet terrible et il le fait avec une puissance et avec une franchise qui est saisissante. Et donc je trouve que c'est une œuvre vraiment importante. On sait que dans Peter Grimes aussi, on dit des choses terribles sur la société, sur etc. Ben, c'est le pendant, c'est l'autre versant du même sujet. Et donc c'est une œuvre importante et je suis très heureux de l'avoir programmée. Vraiment.
Mise en scène d'Anne Delbert avec des spécialistes de certains rôles. En tout cas, il y a le baryton australien Duncan Rock dans celui de Tarquin. Et puis, on va revoir Cyril Dubois qui a été très impressionnant, qui a beaucoup impressionné Robert dans les Cantiques de Britten.
Absolument, parce que cette soirée de Saint-Pierre-des-Cuisines est vraiment marquée de pierre blanche dans l'histoire même de de l'art lyrique à Toulouse, parce que ça a été une soirée complètement en état de grâce, mais de la part de tous les interprètes, Anne Le Bozec au piano, Cyril Dubois évidemment, qui est de tous les cantiques, et qui ce soir-là a été vraiment absolument fabuleux. Il nous a bouleversés à tous.
L'opéra de Benjamin Britten, que vous pouvez donc découvrir à l'Opéra National du Capitole lors de 4 représentations, les 23, 26, 28 et 30 mai. Et Robert, vous vouliez ajouter, même préciser quelque chose d'important, ça concerne les costumes.
Ça concerne les costumes, effectivement, parce que peut-être le nom ne vous dira pas grand-chose. Il s'agit de Mine Vergès. En fait, c'est une dame qui, à l'heure actuelle, est encore à la manœuvre. Elle habille tout ce qui se passe sur la scène du Moulin Rouge, et elle a habillé des gens comme Barbara, comme Juliette Gréco, comme Dalida et tant d'autres. En fait, c'est une légende française du costume. Donc je pense que c'est elle qui habille évidemment tous les interprètes du viol de Lucrèce.
Et les costumes sont magnifiques.
Voilà.
Bah, raison de plus pour aller découvrir ce viol de Lucrèce donc à l'Opéra National du Capitole du 23 au 30 mai. On en arrive à la saison 23-24 que vous avez conçue et dévoilée il y a un peu plus d'un mois, Christophe Gresty. Moment très attendu chaque année par tous les passionnés d'art lyrique, et on sait qu'ils sont nombreux à Toulouse. La fréquentation de l'Opéra du Capitole en témoigne. Et comme d'habitude, vous nous avez concocté un savant mélange entre de grands classiques et des œuvres plus rarement données. Il va y avoir des prises de rôle, ça c'est aussi une habitude de la maison. Et il n'y a quasiment que des nouvelles productions à une exception près, dont au moins 3 qui auraient dû avoir lieu il y a 2 ou 3 ans, reportées en raison de la crise sanitaire et des périodes de confinement. Et c'est notamment le cas de celle qui ouvre la saison du 26 septembre au 8 octobre, Les Pêcheurs de Perles de Georges Bizet.
Absolument, donc c'est un titre que nous adorons tous, c'est de la musique absolument merveilleuse. Et c'est le report en effet d'un spectacle qui devait faire aussi l'ouverture de saison. Je ne sais plus si c'est il y a 2 ou 3 saisons, j'ai un peu perdu le fil avec
ces années-là. On ne s'y retrouve plus, d'autant plus que là on parle d'une saison qui commence dans 6 mois. Donc
Voilà, qui a été confiée à Thomas Lebrun, qui va donc faire une mise en scène pour la première fois au Théâtre Capitole. Thomas Lebrun, c'est un grand chorégraphe français qui dirige le centre chorégraphique de Tours, qui pratique une danse très contemporaine. Et que ça a beaucoup amusé, et beaucoup séduit plutôt, de se plier à une autre discipline, qui est celle d'un grand opéra du 19e, avec une esthétique très... vous savez, l'ADN du Capitole réside aussi dans le spectacle complet. Pour moi, l'opéra, c'est un art total, et le Capitole est un endroit idéal pour le pratiquer. Nous avons des ateliers de costumes et de décors de très très haut niveau, de perruques et de maquillage. Il y a d'ailleurs en ce moment une exposition magnifique au couvent des Jacobins sur le travail de ces ateliers. Et donc, quand on crée une nouvelle production d'un titre du répertoire, donc d'un titre dont on peut se dire qu'il sera repris quelques années plus tard, il y a évidemment tout un travail qui est fait par les ateliers sur ces productions. Je n'aime pas, je dois le dire, des productions qui se passeraient dans un parking, dans une blanchisserie, etc. Et je ne pense pas que essayer de chercher le parfum d'une œuvre, le parfum particulier d'une œuvre, soit quelque chose de particulièrement classique. Ce n'est pas parce qu'on ne joue pas dans un parking ou dans un abattoir qu'on est classique. Et donc, c'est toujours ce que je cherche à faire avec les metteurs en scène, de trouver une voix qui soit évidemment pas une voix d'une tradition poussiéreuse qui n'a plus à exister. Et puis, d'autre chose, le n'importe quoi, l'arbitraire. Et donc, Thomas Lebrun, il a fait ce travail magnifique avec deux grands connaisseurs de la maison, qui sont Antoine Fontaine, qui est grand décorateur historique, dont on vient de voir à nouveau la Traviata il y a quelques temps, et David Belugou, costumier absolument génial, qui a fait chez nous Wozzeck notamment, et Ariane Anaxos. Donc il ne les connaissait pas, il s'est allié avec eux, et donc il va nous proposer une version des Pêcheurs de Perles qui, franchement, le projet est absolument enchanteur, sans être du tout ringard. Ça, c'est très important pour moi. Il y a un jeune chef d'orchestre brillant qui s'appelle Victoria Van Oosten qui dirigera l'orchestre. Et puis voilà, donc une distribution évidemment de chanteurs francophones pour cet ouvrage.
Alors la distribution, Robert, évidemment, vous voulez en parler. Parce que bon, on a Anne-Catherine Gillet en Leïla. Ça, c'est pas une prise de rôle. C'est un rôle qu'elle a déjà tenu. En revanche, Mathias Vidal, je ne crois pas me tromper en disant que lui, ça va être une prise de rôle de chanteurs que l'on connaît au Capitole, mais évidemment ailleurs, et qu'on apprécie.
Mais je voulais rappeler également, oui, Mathias Vidal Alexandre Duhamel, Jean Fernacetti. J'aurais appelé que Christophe Grissi, vous avez opéré un twist absolument extraordinaire parce que, en fait, c'était la distribution d'origine, avant la pandémie, donc, qui s'est transformée en distribution de cosy fan tout, oui. Sur un claquement de doigts ou à peu près, qui était une distribution merveilleuse où, je crois, il y avait des prises de rôle aussi.
Ah oui, dans ce cosy fan tout. À peu près tout le monde.
À peu près tout le monde. Oui. Et maintenant, nous les retrouvons. Et voilà, comme si rien ne s'était passé depuis 3 ans. C'est quand même un tour de force.
Ah bah, ce cosy avait été... Ce cosy avait été un tour de force parce qu'il avait été monté en 3 mois, quoi. Voilà. Donc voilà, on avait fait cette transformation. Et puis donc, ce qui est aussi très important pour moi dans cette production des Pêcheurs de Perles, c'est que, et ça allait de pair avec le fait d'engager Thomas Lebrun, était d'avoir le ballet sur scène et de réunir ainsi les 3 forces artistiques de la maison, le ballet, le chœur, l'orchestre, plus le travail des ateliers. Donc c'est comme une espèce de grande carte de visite pour ouvrir la saison.
Dans Les Pêcheurs de Perles, il y a un air archi célèbre, une petite merveille, comme il y en a beaucoup dans l'œuvre de Bizet en général, c'est la romance de Nadir. On l'écoute ici dans une version interprétée par l'un des plus grands ténors actuels, Michael Spires. L'air de Nadir des Pêcheurs de Perles de Georges Bizet, chanté par Michael Spires. C'est Mathias Vidal qui va l'interpréter au Capitole, qui va tenir le rôle de Nadir pour l'ouverture de la saison 23-24. Il y a 6 représentations du 26 septembre au 8 octobre. La suite, c'est un grand classique du répertoire lyrique russe, sachant qu'il va y en avoir 2 cette saison. On en parlera plus tard. Du 24 novembre au 3 décembre, vous avez programmé 5 représentations de Boris Godounov, l'opéra de Moussorgski. Il s'agit aussi d'une nouvelle production pour laquelle vous avez confié le rôle-titre à Mathias Goerne. Alors voilà aussi une prise de rôle très attendue.
Oui, bon, donc Mathias Goerne nous fait l'amitié de venir chanter régulièrement au Capitole. C'est une des rares maisons qui l'accueille, pas en récital, mais sur scène. Il a fait avec nous Tristan, Parsifal, Electra. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le monde où il va sur scène. Et donc, on a préparé avec lui ce projet de Boris Godounov, qui est un rôle où je le vois très bien et qui lui-même l'intéressait. Il a toujours chanté du répertoire russe, mais surtout, il a beaucoup chanté les symphonies et les mélodies de Shostakovich. Donc, c'est une langue qu'il connaît bien. Et il avait aussi envie, depuis longtemps, de retravailler avec Olivier Py, avec qui il avait fait Matisse le peintre de Une demi-heure à Bastille. Donc voilà, on les a réunis sous ce nouveau titre. Évidemment, Boris est aussi un titre pour Olivier Py. Donc ça, c'est et le projet est très prometteur. Oui, vraiment un grand projet pour la maison. Et nous le faisons en coopération avec le Théâtre des Champs-Élysées, qui le reprend 3 mois plus tard, avec exactement le même cast et le Chœur du Capitole qui sera sur scène aux Champs-Élysées.
À la direction musicale, Andris Poga, chef letton qu'on connaît à Toulouse parce qu'il a dirigé il y a quelques années à plusieurs reprises l'Orchestre National du Capitole, notamment, si ma mémoire est bonne, dans la 6e de Mahler. Sur scène, les autres rôles seront tenus par des chanteurs qu'on connaît. Il y aura donc Victoire Bunel, qui oui. sera Fiodor, Marius Brenchiou, il est venu plusieurs fois, en Prince Chouisky, et puis Mihai Timoshenko. Voilà aussi une tête qu'on commence à voir de plus en plus souvent au Capitole.
Voilà, qui a fait un merveilleux Marcello dans la Bohème l'année dernière, qui est un chanteur merveilleux. C'est vrai que ça c'est un sujet que nous avons souvent abordé avec Robert Penaver. Si vous voulez, c'est pas parce qu'on fait du Britain qu'on doit avoir que des chanteurs anglais, c'est pas parce qu'on fait Boris qu'on doit avoir que des chanteurs russes. Et les rôles, il y a évidemment une connaissance de la langue, de la culture, de tout ça qui est indispensable, mais c'est surtout une question d'énergie. Et c'est pas parce que vous êtes une basse russe que vous êtes un bon Boris, obligatoirement. Les rôles vont chercher, quand on parle d'identification, ça va chercher autre part seulement que dans votre culture. Donc en effet, il y a quelques chanteurs russes dans la distribution, mais finalement pas majoritairement. Pimène, qui est évidemment un rôle fondamental, c'est une grande basse italienne qui va le chanter, mais qui lui-même a été déjà un très grand Boris et qui se met aujourd'hui à Pimène. Vous avez parlé de Marius Brenchiou, qui est un merveilleux ténor roumain, et que je vois déjà, puisque c'est un rôle de méchant, et que je vois déjà parfait en Chouisky. Le merveilleux Ayram Hernandez qui lui est espagnol pour le rôle de Grégory, ça c'est un luxe absolu. Enfin, voilà. Et en effet, Victoire Bunel par exemple, qui vient d'être une merveilleuse Flora dans Traviata, qui chantera le jeune prince.
On va également revoir plus tard dans la saison. Une reprise ensuite du 25 janvier au 4 février, c'est la seule d'ailleurs de la saison, celle de la production de La Femme sans ombre de Richard Strauss, dans la mise en scène créée par Nicolas Joël en 2006 et dans les décors d'Ezio Frigerio. Et avec les superbes costumes dessinés par Franca Squarciapino. Donc un chef-d'œuvre qu'on n'a pas l'occasion de voir souvent sur les scènes lyriques françaises, pour laquelle vous avez réuni encore une fois une distribution de premier plan, Christophe.
Oui, je ne le mettrais pas à l'affiche si on ne pouvait pas réunir la distribution qui va avec. La Femme sans ombre, évidemment, c'est un défi pour une maison lyrique, parce que c'est un ouvrage énorme. D'ailleurs, ça fait vraiment maintenant longtemps qu'on travaille à cette reprise, parce que aussi les temps ont changé depuis que l'ouvrage a été fait il y a une vingtaine d'années. On cherche à disposer les musiciens dans la fosse autrement, parce que évidemment notre fosse est quand même un peu limite pour une telle orchestration.
C'est une des limites.
Donc voilà, il y a beaucoup de questions qui se posent. Alors moi, j'avais vu cette production à l'époque, j'en ai un très grand souvenir, une des plus belles productions de Frigerio. Pour le Capitole, très puissante, je pense que c'est le bon mot. Et en effet, il fallait la distribution qui va avec. Alors, vous savez, souvent, voilà, les choses se font. Il y a toujours plein de facteurs. Mais quand Ricarda Merbet était là pour Elektra, il y a 2-3 ans, elle m'a dit que son prochain rêve, puisque quand elle est venue chanter Elektra, elle venait de le mettre à son répertoire. Ça faisait 6 mois qu'elle le chantait, était la Teinturière. Et donc voilà, ça s'est fait comme ça. C'était une production que je voulais reprendre et ça a été l'occasion. Et puis elle s'est très bien à l'époque entendue avec Frank Berman, qui est un immense chef d'orchestre. Et donc voilà, on l'a fait pour tous les deux. En même temps, évidemment, Sophie Koch, qui participe à beaucoup de nos projets, Wagner ou Strauss, voulait depuis longtemps débuter la nourrice. Voilà, les choses se sont mises comme ça et puis se sont rassemblées comme ça. Et alors voilà, après, c'est pour nous, il y a 4 représentations, c'est pas beaucoup, mais c'est évidemment un investissement énorme pour la maison, si je peux le dire tout simplement, avec un plateau absolument énorme et avec des chanteurs de premier ordre. Donc voilà, et ce qui est exceptionnel doit être exceptionnel, donc c'est 4 représentations.
L'empereur, ce sera
Isakaya Savage, qui avait chanté Bacchus dans Rien à Naxos, et pour Barak, donc un nouveau venu dans la maison qui s'appelle Brian Mulligan, qui est un merveilleux baryton américain, qui fait ces rôles-là.
Robert, un souvenir de la production de Nicolas Joël, vous avez assisté à la création en 2006, j'imagine.
Oui, non, mais bien sûr, je ne l'ai pas vu qu'une fois d'ailleurs, parce que le choc a été tellement violent le premier soir que je me suis senti obligé d'y revenir. Alors, une distribution magnifique, déjà à cette époque-là, et une direction d'orchestre également. Et je garde en souvenir cette production. Parce qu'elle est merveilleuse esthétiquement parlant. Elle est vraiment. C'est effectivement, Christophe, vous avez raison. C'est certainement pourtant le quatuor, Joël, Squarchapin, Frigero, Vinicio Kelly, nous ont fait de bien, bien belles choses. Mais celle-ci, elle reste, je crois, emblématique de la collaboration qu'il y a eu entre ces quatre artistes.
Donc, du 25 janvier au 4 février pour La femme sans ombre de Richard Strauss, et puis nouvelle production. Encore du 27 février au 7 mars, 5 représentations d'Idoménée. Idoménée, opéra très important qui marque un tournant dans l'œuvre lyrique de Mozart. Et cette nouvelle production présente beaucoup de particularités, que ce soit pour les interprètes avec la prise de rôle de Marie Perbost, pour le chœur invité, puisqu'on va revoir les éléments au Capitole, je pense qu'il y a très longtemps que ce n'était pas arrivé, vous allez expliquer pourquoi. Et puis il y a aussi l'équipe qui s'occupe de la mise en scène, de la scénographie et des costumes, tous nous viennent du Japon.
Oui, absolument. Il n'y a pas seulement une prise de rôle dans la distribution.
Oui, il n'y en a pas qu'une.
En effet, donc il y a Cyril Dubois qui est...
Qu'on va retrouver en Idamante.
Qui chantera son premier Idamante, là, qui est dans le viol de Lucrèce. Mais aussi... alors, c'est une distribution étrange, la distribution d'Idoménée, parce qu'il n'y a pas de voix masculine grave. Il n'y a que des ténors. Donc, c'est 4 ténors et 2 sopranos. Et là, je crois qu'on a vraiment 4 ténors que j'aime beaucoup. Et avec les débuts chez nous d'un magnifique ténor américain dans le rôle titre qui s'appelle
Yann Kosiara.
Et en effet, vous l'avez dit. Alors, on va retrouver ça, une autre, pour moi, source de bonheur, c'est de retrouver d'abord Michele Spotti dans la fosse du théâtre, qui vient de faire chez nous des débuts, je crois, vraiment magnifiques.
Ça, Robert va nous en redire un mot parce qu'il était très fort. Favorablement impressionné
avec
par ce jeune chef italien.
Oui. Et je voulais, pour Idoménée, qui est une tragédie en musique, qui est un opéra seria, mais très particulier, puisque c'est un opéra qui se passe dans une espèce de tempête perpétuelle. Et je voulais vraiment un chef de théâtre. Et Spotti est vraiment un chef de théâtre. En plus, il a la jeunesse de... La fougue de la jeunesse. Et je voulais absolument un chef qui ait cette fougue-là, et qui, en même temps, qui soit italien, pour la dimension théâtrale, puisque c'est une tragédie, pour travailler avec les chanteurs sur la déclamation, aussi bien pendant les récitatifs que pendant les airs. Et en effet, nous coproduisons avec le Festival d'Aix-en-Provence une production qui a été confiée à un grand metteur en scène japonais, Satoshi Miyagi, qui, dans cette production, justement, mêle à la fois l'opéra seria et les codes de l'opéra seria et de la tragédie avec ceux d'une espèce de théâtre no, si vous voulez, et ce qui est assez cohérent. Et ça donne un très, très beau résultat, à la fois avec beaucoup de solennité. Ce qui est dans l'œuvre, est très solennelle. Elle parle quand même de sacrifice, et donc elle en parle avec beaucoup de solennité et à la fois donc beaucoup d'esthétisme, parce que c'est aussi très important dans le monde de la tragédie.
Cette rencontre entre la Grèce antique et le Japon moderne est vraiment une des curiosités de la saison. Alors Robert, Michele Spotti,
alors c'est vrai que Christophe Grissi nous fait découvrir beaucoup, beaucoup de nouveaux chanteurs, mais également beaucoup de nouveaux chefs d'orchestre. Et entre autres, juste une petite parenthèse sur Passerini, qui a dirigé la Bohème, et qui va diriger un peu au pied levé, en remplacement de Lorenzo Viotti, la Bohème également, au Théâtre des Champs-Élysées. Bon, voilà le type d'artiste que nous découvrons au Capitole.
Ça classe le bonhomme, effectivement.
Voilà. Alors, Michele Spotti, voilà. Pour moi, il a été le grand coup de foudre de la Traviata. Voilà, il y avait de bons chanteurs, c'est pas ce que je veux dire, mais le grand coup de foudre, j'ai entendu une nouvelle Traviata, de la même manière que Passerini nous avait fait entendre une nouvelle Bohème. Ce sont des nouveaux chefs d'orchestre que personnellement je découvre et qui nous donnent à entendre autre chose que ce que nous avons peut-être tous trop l'habitude d'entendre et auquel nous nous sommes habitués. Et ça, c'est quand même l'une des forces des propositions de Christophe Grissi.
Être dérangé dans le bon sens. Yann Kodziara, lui c'est un spécialiste du rôle d'Idoménée, ça nous permet de l'écouter maintenant parce qu'il existe des enregistrements. On va l'écouter dans un extrait de l'air Fuor del Mar, situé vers le début de l'acte 2 d'Idoménée.
Suoi casi, qual mostra un tratto in tempestiva gioia, la frigia principessa. Quei che esprime veri sentimenti per il prence, sarebbe forse, ahimè, sentimenti d'amor, gioia di seme. Non mi inganna reciproco l'amore. Troppo qui davanti a sor quelle catene, sollecito tu fosti. Ecco il delitto che te unisce in ciel. Si sia Nettuno il figlio, il padre e l'Ida, le vittime saranno sulla rai stessa, dai qual dolore afflitte, una dal ferro e due dal duol trafitte.
Fuor del Mar, air de l'acte 2 d'Idoménée, chanté par Yann Kodziara, qui tient le rôle-titre de l'opéra de Mozart à l'Opéra National du Capitole lors de 5 représentations, programmées du 27 février au 7 mars 2024. Ah, Robert Pennevert lève la main, ce doit être important.
Je ne sais pas si c'est important, mais simplement, effectivement, il n'y a pas de clé de fa qui chante, il n'y a que des ténors, côté messieurs. Et dans ces ténors, moi je voudrais souligner, pardon, c'est pas une lubie, mais c'est le retour tellement attendu d'un jeune ténor tchèque que Christophe Grissi nous a fait découvrir en deuxième distribution du Barbier de Séville il y a 2 ans, qui s'appelle Peter Nekoranesh. Et vraiment, il va venir dans le rôle d'Arbatch, bien sûr. Et il est, enfin, pour ma part, j'attends beaucoup de ce qu'il va faire dans ce rôle-là.
Voilà. Mais vous avez raison de le rappeler, de rappeler vos coups de cœur, Robert. Alors, pour le début du printemps, du 30 mars au 7 avril, vous présentez au public toulousain une autre nouvelle production. Là, il va y avoir 8 représentations de la Cenerentola, autrement dit Cendrillon, de Gioacchino Rossini. 8 représentations, comme souvent, il y a une double distribution pour les rôles principaux, dans laquelle on retrouve un certain nombre de têtes et voix connues, mais aussi quelques petits nouveaux dans une mise en scène de Barbe et Doucet, un duo qui a fait ses preuves au Capitole dans la Bohème, et avec une direction musicale encore assurée par, devinez qui, eh bien, l'excellent Michele Spotti.
D'abord, je voulais absolument faire une nouvelle production de Cenerentola, parce que le titre n'a pas été présenté depuis très longtemps, je crois.
Robert va nous le dire.
Au Capitole, je crois, c'est depuis 40 ou 50 ans. C'est vraiment très, très... Ça fait...
Vous étiez à peine né, Robert, je ne sais pas si vous allez vous en rappeler.
Janvier 1985.
85, ça fait 40 ans. Voilà.
Ouais, ça fait presque 40 ans, effectivement. Ouais.
Et bah, c'est quand même un chef-d'œuvre merveilleux. Donc, il fallait absolument, évidemment, le représenter au public. Donc, ça, c'est vraiment un titre, d'abord, que je voulais faire. Et puis après, aujourd'hui, il y a de très grands chanteurs rossiniens sur les scènes internationales. Et donc, voilà, l'idée était de les réunir. Nicolas Alaimo, qui est un immense artiste, qui fait Do Magnifico. Notre rossinien national, qui est Florian Sempé, qui a fait ses débuts au Capitole récemment dans le Barbier de Séville, et qui a fait un tabac, qui chantera le rôle de Dandini. Un merveilleux ténor qui s'appelle Levi Sekapan, qui lui aussi maintenant chante ces rôles-là sur les plus grandes scènes. Et puis aussi, quelqu'un que j'aime beaucoup, qui faisait Rosine dans la deuxième distribution de Notre Barbier, qui est Adèle Charvet, qui fera sa première à Cenerentola, et qui est une merveilleuse artiste. Et c'est un rôle pour lequel il faut de la jeunesse, de l'innocence, de l'enthousiasme, et, elle a, et puis évidemment de l'abattage. Et elle a tout ça. Et dans le deuxième cast aussi, je pense qu'il y, a de, il y aura de très belles découvertes, notamment une jeune mezzo-française, Floriane Hassler, qui elle aussi, j'entends évidemment Angelina pour la première fois, qui est une merveilleuse jeune artiste. Ça fait partie de notre mission et dans notre passion de découvrir et d'aider aussi, de pousser ces jeunes chanteurs. Philippe Estef aussi dans la deuxième distribution, un formidable ténor, Michele Angelini. Et aussi le retour d'un merveilleux baryton pour Magnifico qui avait fait...
Vincenzo Taormina.
Taormina qui avait fait un grand succès dans la deuxième distribution de Figaro. Il y a deux ans que je retrouve avec bonheur.
Et puis Barbet Doucet.
Et Barbet Doucet, qui font scène. Voilà. C'est une production que nous faisons avec l'Opéra de Riga. Ça aussi, c'est une chose importante, les coproductions avec les autres théâtres. Et ils ont fait un formidable spectacle, vraiment très coloré, très rythmé. Comme
il faut qu'il le soit.
C'est une comédie.
Robert.
C'est une comédie et ils font ça extrêmement bien.
Voilà, alors c'est vrai que tous ces chanteurs vont prendre la relève quand même de glorieux anciens sur la scène du Capitole, puisque la dernière Angelina n'était rien d'autre que Lucia Valentini Terrani, qui a été vraiment un très très grand mezzo rossinien. Et dans cette distribution, il y avait quand même des pointures comme Renato Capecchi, Paolo Montarsolo, sont des légendes également de l'opéra italien. Mais je voudrais souligner, si vous permettez, mon grand plaisir de retrouver Adèle Charvet en première distribution, bien sûr. Quoique bon, au Capitole, on ne sait plus très bien première distribution. C'est une affaire chronologique plus qu'une affaire
oui,
de qualité.
Oui, c'est pas les titulaires et les remplaçants, ça marche pas comme ça.
Voilà. Oui, d'abord, je me permettrai jamais de dire à un artiste, vous êtes un second cast.
Oui, non,
c'est une question de le fonctionnement du Capitole avec un orchestre qui a sa propre saison symphonique. On ne peut pas étaler les représentations trop longtemps. Donc, quand on veut faire beaucoup de représentations, 8 ou 9, on doit avoir deux castes. Et puis d'abord, c'est bien aussi d'avoir deux interprètes d'un même rôle. Et donc, c'est vrai que je ne raisonne pas du tout en celui-là, il est fait pour une première et celui-là, il est fait pour une autre. Et d'ailleurs, quelqu'un cette saison, Anaïs Constant, qui chantait Suzanne, chantait le deuxième. Il y avait une seule distribution, chantait le deuxième case de Mimi. Et je lui ai toujours dit, ça n'est pas du tout une défaveur. C'est simplement, quand il y a deux équipes, elles ne peuvent pas chanter en premier le même soir. C'est tout. Mathématiquement. Il faut bien qu'il y en ait une qui commence et qu'il y en ait une qui termine. C'est la seule différence qu'il y a entre les deux.
Mais moi, je connais beaucoup de gens qui vont voir les deux distributions parce qu'ils veulent entendre les deux. Et puis,
c'est le principe même.
Faire des découvertes aussi.
Des spectacles vivants. Même une première distribution entre guillemets que l'on retrouve 5 jours après, c'est pas la même. Or simplement pour cette Sandrio, je voudrais revenir sur le Barbier de Séville puisque nous retrouvons quand même quelques-uns des interprètes et en particulier mes trois coups de foudre de ce Barbier de Séville avaient été Adèle Charvet. Alors je la découvrais pas, mais en fait je la découvrais quand même un peu. Enfin dans un rôle conséquent, ou alors elle était bien dirigée, bien entourée, bien mise en scène, elle était magnifique. Et puis Vincenzo Taormina, extraordinaire.
Ah oui, ça.
Alors, c'était pas le baryton autour de qui tout tournait, mais c'était lui qui tournait autour de tout le monde. Voilà. Et pour moi, Figaro, c'est plutôt ça. Voilà. Et puis, il y avait, évidemment, mais là, il peut pas être partout, il y avait Peter Nekoranec qui avait été un alma viva absolument à tomber par terre. Et donc, vous pouvez nous dire deux mots sur Michele Angelini?
C'est un jeune ténor italien qui se spécialise dans ce répertoire. Beau garçon, très belle voix. Belle virtuosité. On a beaucoup de chance de l'avoir aussi pour trois représentations. C'est un merveilleux chanteur.
Et puis Levi Segapane qui avait accompagné, ou du moins pas accompagné, pardon, qui chantait dans le même récital que son glorieux aîné, Lawrence Manley, et qui vraiment aujourd'hui, alors lui, fait une carrière
énorme.
Une carrière énorme.
Et bien ça tombe bien, vous parlez de lui parce que pour le plaisir, voici un air de la Cenerentola chanté par le grand ténor sud-africain Levi Segapane, qui sera donc Don Ramiro au Capitole au printemps 2024. Lévi Segapane est dans cet extrait de la Cenerentola Cendrillon, l'opéra de Rossini dont la nouvelle production est programmée au Capitole lors de 8 représentations du 30 mars au 7 avril dans une mise en scène de Barbé Doucet et puis du 17 au 26 mai. L'avant-dernier opéra de la saison va être donné aussi dans une nouvelle production, mais une nouvelle production qui devait avoir lieu il y a 2 ans, reportée en raison de la crise sanitaire, après Les Pêcheurs de Perles de Bizet, honneur encore à l'opéra français, et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit de Péléas et Mélisande de Claude Debussy. Pour les 2 rôles principaux, vous avez réuni un duo formé par un spécialiste de Péléas, Marc Moyon, et une nouvelle Mélisande, donc vous faites confiance à Victoire Bunel, ça va être une prise de rôle. Tout ça dans la mise en scène d'Éric Ruff, l'administrateur général de la Comédie Française, s'il vous plaît.
Oui, je suis très impatient de la Mélisande de Victoire Bunel. La première fois que j'ai entendu Victoire Bunel, elle était encore au conservatoire et c'était dans des scènes de Péléas. Et bah c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure sur le pour un rôle. Quand je vois Victoire Bunel, je vois Mélisande, voilà. Et je sais que c'est le rôle dont elle rêve le plus. Donc voilà, on y va, quoi. Et puis évidemment, comme vous imaginez bien, on a travaillé déjà avec la formidable équipe musicale du Capitole. On avait fait une grande séance de travail avec elle. Et notre pianiste, Miles Clary Fox, qui est un merveilleux musicien, était bouche bée devant la Mélisande. Voilà, donc si vous voulez, c'est des risques et pas des risques.
Très calculé,
c'est des risques toujours
très sous-pesés.
Après, on peut se tromper, hein, c'est comme ça. Parce que entre le moment où vous engagez quelqu'un et le moment où il est là, enfin, il peut se passer plein de choses, et puis voilà, on peut se tromper. Bon. Mais voilà, franchement, je suis sûr que je ne me trompe pas et qu'elle va être une
grande Mélisande.
Qu'elle va être une grande Mélisande. Marc Moyon, qui est un artiste absolument merveilleux dans la grande tradition des barytons martins français. Avec un frémissement, une diction
assez addiction, d'une netteté impressionnante chez Marc Moyon.
Extraordinaire. Et puis là aussi, voilà, y a pas que des, pour une fois, pas parce qu'on fait un opéra français qu'il n'y a que des Français dans la distribution. D'abord, il y a un très grand baryton grec, mais qui chante un français absolument sublime, qui fera son premier Golo, qui est Tassis Christoyanis, qui est un immense artiste. Le grand Franz Josef Zelig pour Arkel, qui est, je crois, le Arkel mondial aujourd'hui. Janina Bechtle pour Geneviève, qui l'a chanté à Vienne, partout. Voilà, donc c'est une question d'énergie et d'identification plus que seulement de culture nationale. Et puis un très grand chef
très apprécié des musiciens,
Léo Hussein, avec qui nous avons fait Wozzeck, avec qui nous avons fait La Ville Morte, donc des très grands titres où l'orchestre évidemment a une part prépondérante. Et puis aussi pour ces représentations, je suis très heureux d'accueillir Éric Ruff, le directeur de la Comédie Française, qui avait signé donc cette belle production qui a été créée déjà maintenant il y a quelques années au Théâtre des Champs-Élysées. Donc c'est un report, donc elle a mis quelques années à arriver au Capitole, mais voilà, je pense que l'atterrissage se passera bien. Et bon, c'est évidemment une œuvre immense et qui n'a pas été donnée depuis longtemps à Toulouse.
En 2003.
Voilà, 2003, 20 ans, œuvre très très importante dans le répertoire lyrique en général, et pas seulement en France d'ailleurs. Alors, tous les ingrédients sont réunis pour que ça soit une grande production. On va écouter un petit extrait de Péléas et Mélisande. Là, il s'agit d'une production qui date d'il y a quelques années, avec Marc Moyon dans le rôle de Péléas et Jenny Davier dans celui de Mélisande. Marc Moyon et Jenny Davier dans cet extrait de Péléas et Mélisande, dont Garde Moyon, et on lui associe Victoire Bunel pour la production du célèbre et magnifique opéra de Claude Debussy à l'Opéra National du Capitole du 17 au 26 mai. Il y a 5 représentations, dernier opéra de la saison 23-24 du 20 juin au 2 juillet. Et là, vous finissez en beauté avec un autre grand classique du répertoire russe, et même du répertoire en général. Après Boris Godounov en début de saison, vous nous proposez une nouvelle production d'Eugène Onéguine, le chef-d'œuvre de Tchaïkovski. Elle aussi aurait dû avoir lieu il y a 2 saisons, mais la crise sanitaire en a décidé autrement. Et cette production aurait dû donner lieu à une prise de rôle très attendue, celle de Stéphane Degout en Onéguine. Il sera bien Onéguine au Capitole, mais ce ne sera finalement pas une prise de rôle. Je ne crois pas dire de bêtises, vous allez
Absolument.
Nous expliquer pourquoi.
Bah, entre-temps, vous savez, l'histoire des prises de rôle, bon, c'est très important. Mais moi, je ne mets pas d'ego à être en premier. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que les artistes se mettent à un rôle pour lequel, il me semble prédestiné, etc. C'était le cas avec... si on parle de Stéphane Degout, ça a été le cas avec Wozzeck, qu'on lui a fait. Et je ne le fais pas pour être le premier. Je fais pour être justement le premier, j'espère, d'une suite pour les artistes. Et j'espère que, vu la réussite extraordinaire de Stéphane Degout en Wozzeck, il fera beaucoup d'autres Wozzeck. De même, pour Onéguine, c'était la même chose. Donc, je peux presque retourner les choses en disant qu'il s'est bien mis le rôle dans le corps à Bruxelles.
Il va venir. Et donc, il sera encore...
encore plus extraordinaire pour nous. Mais en effet, la production était, disons, faite pour lui. Je ne vais pas le cacher, parce qu'il me semble que c'est un rôle qui lui colle à la peau. Il fallait le lui proposer. Mais après, je crois que l'ensemble du cast est très prometteur pour moi. Il y a un formidable jeune chef d'orchestre hongrois, Gabor Kali.
Oui.
C'est un jeune metteur en scène français qui a beau, enfin quand je dis jeune, parce que oui, en effet, il n'est pas vieux, mais il a beaucoup d'expérience.
Oui, il a déjà fait beaucoup de choses qui ont été très appréciées en plus.
Et notamment beaucoup de théâtre. Il a une troupe
Florencio
au Canada. Et là aussi, un grand décorateur, un grand costumier, Jean-Daniel Villermoz, qui est un costumier fabuleux. Et vraiment, là, ce sera, de ce point de vue-là, là encore, ce sera une démonstration de savoir-faire incroyable par nos ateliers de costumes. Et puis autour de Stéphane, un merveilleux ténor, Polanski, Bror Magnus Todonas, dont Lenski est vraiment le rôle signature. Et une merveilleuse soprano russe, Valentina Fedeneva, qui était tellement triste la première fois qu'on a dû interrompre les représentations, elle voulait tellement vite revenir que je lui avais proposé la première nymphe de Roussalka qu'elle a fait en début de saison, où elle était absolument divine. Donc ça, je suis très heureux de la retrouver. Eva Zajcik pour Olga. Une formidable basse, Andreas Bauer, canabasse pour Grémine. Ceux qui le connaissent peuvent s'étonner parce que c'est pas l'image qu'on a de Grémine, qu'on imagine un vieux capitaine. Et moi, je me suis toujours dit, je vois pas pourquoi cette malheureuse Tatiana, même si elle a été, si elle a vécu une histoire compliquée avec Stéphane Degout, devrait épouser un militaire qui aurait 3 fois son âge. Il y a pas de raison. Elle est de bonne famille, elle est belle, donc elle doit avoir un beau Grémine.
C'est un prince, Grémine.
C'est un prince. Donc, voilà. Et moi, ça me désole toujours de voir. C'est pas un mariage arrangé. Et d'ailleurs, les quelques répliques ensemble, en Grémine et Tatiana, montrent une vraie amour, et une complicité. Je voulais absolument avoir un beau Grémine pour
Tatiana. Le combat est loyal.
Voilà.
Très belle production et très belle distribution dans laquelle on trouve ce jeune ténor norvégien Bror Magnus Todenes, spécialiste du rôle de Lenski dans Eugène Onéguine. Nous allons l'écouter dans un des airs les plus célèbres de l'opéra de Tchaïkovski, l'air de Lenski, Kuda Kuda. Субтитры сделал DimaTorzok. Bror Magnus Todenes chantait Kuda Kuda, l'air fameux de Lenski dans Eugène Onegin, l'opéra de Tchaïkovski, donc est donné avec Stéphane Degout dans le rôle titre pour clore la saison 23-24 de l'Opéra National du Capitole. Du 20 juin au 2 juillet, il y aura 6 représentations. Voilà pour la saison d'opéra, mais comme chacun sait, il n'y a pas que des opéras au Capitole, il y a également des concerts et des récitals, il y en a même beaucoup.
Et du ballet.
Et du ballet, alors ça on n'a pas le temps d'en parler, je suis désolé, on fait que la musique ici, mais il y a de la musique aussi sur les ballets bien sûr. Concernant les récitals, il y en a 5, alors je donne les noms hein, parce qu'on n'a pas le temps de vraiment tout détailler. Michael Fabiano, le ténor américain, Mathias Gern évidemment sera encore présent, Marcello Alvarez, ténor, le duo Karine Dehé, Florian Sempé et Marie-Nicole Lemieux. Bon, il y a beaucoup d'habitués de la maison, hein, mais il va y avoir encore des programmes magnifiques. Je vous laisse dire 2-3 mots dessus.
D'abord, je suis très heureux que le public nous suive dans cette volonté de faire une saison de récital chaque année. C'est une façon aussi de converser avec les artistes en permanence. C'est très important pour eux, pour moi. Je suis quand un chanteur n'est pas là dans la saison lyrique, il peut venir en récital. Voilà, c'est une façon de vraiment de continuer le travail ensemble. Et puis justement, ça permet d'aborder aussi un répertoire qui est essentiel. Je veux dire, quand on entend Le Voyage d'hiver, etc., on entend parmi les plus grands chefs-d'œuvre de la musique. Ce n'est pas du tout un répertoire de deuxième ordre, c'est un répertoire de premier ordre. Et là, par exemple, on va avoir Michael Fabiano, donc un immense ténor qu'on entend dans Verdi, etc., qui, une de ses passions, c'est du parc. Donc on lui donne, je trouve bien de lui donner l'occasion de chanter, du parc. Il chantera 12 mélodies du parc quand même. C'est quand même une chose assez exceptionnelle. Et puis Marie-Nicole Lemieux qui chante régulièrement sur notre scène, qui a été il n'y a pas longtemps une Carmen explosive. Elle adore chanter en récital. Donc c'est ça fait partie de. Je suis très heureux que le public nous suive sur ce sujet.
Et effectivement, on peut en témoigner ici, Robert.
Effectivement, ces récitals dits de prestige, Gern, Alvarez, Fabiano, etc., bien sûr qu'ils sont prestigieux. Mais je voudrais souligner les midis du Capitole.
Oui, parce alors j'avais prévu d'en parler.
Non, non, parce que les midis du Capitole, on attend d'être autour. Il faut vraiment regarder cette année ce qui se passe.
Ah, mais je vais les donner. Hein. C'est du début octobre à fin juin. Il y a Catherine Hunold, Mikhail Timochenko, Alexei Isaïev, Petr, votre petit chouchou, Petr Nekoraniek, Marie-Laure Garnier et Karl Gazarossian.
Gazarossian. Alors bon. Je ne sais pas si c'est l'équivalent des précédents.
Pour le modique tarif 2, c'est 5 euros. Je ne sais pas si les gens sont bien conscients.
Alexei Isaïev, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, et ça m'étonnerait, mais c'est lui qui chantait Votnik, dans un Votnik complètement volcanique dans l'ouverture de la saison de Rusalka. Timoshenko, ça fait 4 fois qu'on en parle. Bon, voilà. Marie-Laure Garnier, qui va faire le chœur féminin du viol de Lucrèce. Peter Nekoraniec, c'est pas la peine d'en dire davantage, il faut se précipiter. Gazarossian, Catherine Hunold, bon, qu'on ne présente plus au Capitole. Voilà. Et pour 5 euros. Oui. C'est cosmique, quoi. Ouais, voilà.
Et,
tout simplement.
Et, ouais. Et si je peux me permettre, pour les récitals qu'on a appelés de prestige, c'est 20 euros. Ça aussi, c'est sans concurrence.
Oui, c'est quand même très abordable lorsqu'on remet ça en relation avec les noms qu'on vient de donner. Alors, les concerts, il y en a, comme je l'ai dit, il y en a aussi, et il y en aura 5 aussi. Donc, cette année, le 4 octobre, il y aura le concert spirituel d'Hervé Niquet avec notamment les Coronation Entertainment Thèmes de Handel, qu'on vient d'entendre lors du couronnement de Charles III. Il y aura Igemelli, l'ensemble d'Emiliano González Toro. Ça sera pour Monteverdi, le concert des Nations de Jordi Savall. Il y a 2 dates cette année. Donc la résidence continue en fait de Jordi Savall et du concert
Absolument,
des Nations.
Absolument, oui, tout à fait. Avec un programme Charpentier et les saisons de Haydn. Et puis, je voudrais juste dire donc le concert de Gemelli, qui est l'ensemble de de González Toro, c'est quand même c'est le retour du Lys de Monteverdi.
Retour du Lys dans sa patrie de Monteverdi.
Voilà, donc nous avons deux représentations. Donc c'est un opéra en version de concert.
Ouais. Il y aura une carte blanche à Hervé Niquet, qui lui aussi est très bien vu à l'Opéra National du Capitole, Mon Noël à moi. Et puis les Sacs-Boutiers, bien sûr, le concert des Sacs-Boutiers, ça aussi c'est une tradition maintenant depuis quelques années. Pour illustrer cette partie concert, vous aurez remarqué qu'Hervé Niquet est très présent. C'est le concert spirituel que je vous propose d'écouter dans un extrait de leur programme du 4 octobre au Capitole. C'est aussi un extrait de leur CD où l'on trouve un superbe enregistrement donc des Coronation Anthems, les hymnes du couronnement de Georg Friedrich Händel. L'air qui ouvre cette œuvre, c'est Zadok the Priest. Voilà qui va rappeler des souvenirs à ceux qui ont assisté récemment, comme je le rappelais, à la messe de couronnement du roi Charles III. Et God Save the King, c'était Zadok the Priest, air qui ouvre les Coronation Anthems, les hymnes du couronnement de Georg Friedrich Händel, extrait du très beau CD enregistré par le Concert Spirituel sous la direction d'Hervé Niquet. Eh bien, nous sommes arrivés au terme de ce 231e numéro de Mélomanie. Il y a beaucoup d'autres choses encore, mais on est obligé d'en rester là. Merci beaucoup Christophe Gristy et Robert Pénavert d'en avoir été les invités. Merci de nous avoir présenté la très belle saison 23-24 de l'Opéra National du Capitole. Récital, concert ou opéra, il ne reste plus qu'à faire son choix, le mieux étant encore de ne pas choisir et de s'abonner pour assister à toutes ces propositions. La billetterie est d'ores et déjà ouverte à l'adresse www.opéra.toulouse.fr. C'est aussi à cette adresse que je vous invite à réserver et acheter vos places pour aller voir Le Viol de Lucrèce, l'opéra de Benjamin Britten du 23 au 30 mai. Il y a 4 représentations, les 23, 26, 28 et 30. Ne ratez pas cette occasion parce que c'est vraiment une œuvre aussi belle que rare sur les scènes françaises. Je signale enfin le concert de l'Orchestre National du Capitole, vendredi 19 mai à 20h à la Halle aux Grains. Sous la direction d'Aziz Chokakimov, l'ensemble symphonique toulousain accompagne la violoniste Manon Galli, toulousaine également, dans l'exécution du concerto pour violon numéro 3 de Camille Saint-Saëns. L'orchestre va jouer aussi une ouverture de Brahms et la fameuse symphonie du Nouveau Monde d'Anton Dvorak. Les réservations et l'achat des places sont à faire sur le site www.onct.toulouse.fr. Un grand merci à Christophe Aubry qui a réalisé ce numéro, dont le podcast est téléchargeable dès aujourd'hui, comme d'habitude, sur le site web de Radio Présence. Et merci à vous tous, chers auditeurs, de rester fidèles à cette émission. Excellente semaine musicale à tous.